Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Mistral pour la FES, la fabrique de l'ESS. La récente adoption de la loi d'orientation agricole suscite des discussions passionnées, notamment en raison des préoccupations qu'elle soulève quant à son impact potentiel sur l'environnement. Bien que cette législation ait pour objectif de moderniser et de stimuler le secteur agricole, il est crucial de veiller à ce que ces avancées ne se fassent pas au détriment de notre écosystème fragile. Les critiques soulignent que certaines dispositions de la loi pourraient encourager des pratiques agricoles intensives, susceptibles d'accroître la pression sur les ressources naturelles et de nuire à la biodiversité. Il est donc essentiel que cette orientation législative intègre des mesures visant à minimiser ces risques et à promouvoir des méthodes agricoles durables. La malterie de Provence-Alpes incarne une approche innovante et respectueuse de l'environnement dans le secteur agricole. En valorisant des circuits courts et en soutenant les producteurs locaux, cette malterie contribue non seulement à réduire l'empreinte carbone, mais également à dynamiser l'économie régionale. Il est impératif que la loi d'orientation agricole inspire de telles initiatives pour encourager une agriculture qui soit à la fois productive et durable. En conciliant modernisation et respect de l'environnement, nous pourrons construire un avenir agricole qui bénéficie à la fois à notre planète et à nos communautés. Et voilà. Donc bonjour, rebonjour. On accueille aujourd'hui donc la malterie de Provence-Alpes avec Thomas et Mathieu. Bonjour.
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 Donc merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle le principe de l'émission. On va discuter de votre projet, on va discuter de vos métiers, on va discuter de vous. Et comme vous avez fait vos devoirs, vous nous avez proposé des musiques et donc les parties de l'émission seront entrecoupées de vos propositions musicales, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence ?
Non, juste belle introduction. Merci, ça tombe à point, effectivement.
Et donc, bah justement, qu'est-ce qu'elle vous dit, vous, cette loi, cette récente loi là, sur l'agriculture qu'on attendait tant ?
Alors, pour tout dire, je n'ai pas regardé de très près, moi. Simplement, tout ce que tu as indiqué sur la philosophie de notre projet et ses ambitions. Effectivement, on est vraiment orienté, nous, pour la défense d'une agriculture paysanne, locale. Offrir un débouché, un nouveau débouché céréalier pour les agriculteurs de la région. Et en circuit court et à échelle humaine au maximum, quoi. Voilà, en bio.
Vous êtes impacté, vous, par les enjeux des agriculteurs autour de vous, dans votre métier, là, enfin, dans votre projet ?
Eh ben, directement, oui, puisque en fait, le principe même, c'est de pouvoir associer le monde agricole à l'amont du projet. On a besoin d'orge brassicole pour pouvoir produire du malt, transformer de l'orge en malt pour la filière complète, que ce soit les brasseurs de la région ou les distillateurs. Donc on a embarqué dès le début tout le monde agricole, que ce soit les coopératives agricoles et certains négoces agricoles, on appelle ça les organismes stockeurs, le jargon technique du métier, et certains agriculteurs aussi individuels qui se sont engagés à travers la société coopérative qu'on a montée, qui sont associés à la filière et qui vont nous approvisionner en orge bio et locale.
D'accord, donc vous êtes au contact d'agriculteurs qui vivent justement toutes les difficultés de temps de travail, temps de vie, économie.
Bah, disons qu'ils ont été confrontés à certaines crises, que ce soit des filières antérieures au projet qu'on a lancé, que ce soit le petit épeautre ou la lavande, certaines cultures qui sont quand même en difficulté dans la région et qui notre proposition, c'est de pouvoir leur apporter des débouchés rémunérateurs, que ce soit une filière qui soit équitable pour l'ensemble des maillons, quoi, l'ensemble de la chaîne de valeur.
Alors, elle est où, cette malterie ?
Alors, pour l'instant, elle est en gestation. Donc, on a des bureaux qui sont basés à Fort-Calquier, en fait, au sein du siège de l'association La Bière de Provence. Et elle-même, on partage les bureaux avec Agribio 04, voilà, ce qui signe un petit peu l'engagement sur le fond du projet. Donc, elle est destinée à se développer, à prendre place sur la zone d'activité de Sisteron Nord,
d'accord,
Val de Durance, voilà, donc à 2 minutes de la sortie d'autoroute.
Ok. Et donc, c'est quoi la genèse de ce projet ? Quelle est son histoire ? Comment est née la malterie Provence-Alpes ?
Alors, elle est née de la volonté des brasseries artisanales de la région, en particulier les brasseries qui sont adhérentes du collectif La Bière de Provence, qui depuis 2018, par là, s'oriente très volontairement sur la structuration de filières d'approvisionnement local. En fait, les brasseries artisanales de la région sont vraiment très désireuses de dire on fait des bières authentiquement locales, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver les ingrédients localement, au-delà de l'eau, effectivement. Dans la bière, il faut également du malt, du houblon. Donc, tant qu'à faire, essayons de promouvoir le développement de ces filières d'approvisionnement dans la région. Donc, il y a eu toute une phase préliminaire en relation avec les acteurs du monde agricole, la coopération agricole sud, Agribio 04, Arvalis, pour mener des expérimentations de culture dans la région et accompagner tout le côté aussi études de marché, etc., pour étudier la viabilité de structurer un outil comme la malterie qui va permettre donc de transformer les céréales, les préparer pour la fabrication de la bière. C'est le maillon manquant, en fait, voilà. Donc c'est venu de là, vraiment la demande des brasseries et qui rencontre du coup l'intérêt des agriculteurs de la région, parce qu'elles trouvent là effectivement un débouché qui leur permet d'intégrer une nouvelle culture dans leur rotation à travers l'orge brassicole.
Donc, d'accord.
Une nouvelle culture à appréhender. Quoi. Ouais.
Et donc cette malterie, c'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Alors qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors c'est un statut juridique d'entreprise. Le principe, c'est de pouvoir apporter une démocratie, donc une gouvernance vraiment partagée entre différents intérêts. Donc là, on a, depuis la création de la société coopérative Malterie Provence-Alpes, qui a été créée, immatriculée en novembre 2023, on a associé à ce jour 61 sociétaires qui sont donc qui ont des parts sociales dans l'entreprise et qui sont réparties selon différentes catégories, différents collèges pour pouvoir prendre les décisions importantes en assemblée générale. Voilà, c'est l'ensemble de ces acteurs qui ont un intérêt dans la filière qu'on est en train de créer et dans l'outil de production qui va naître de ça, qui ont un intérêt à s'associer pour pouvoir défendre ensemble toutes ces valeurs de circuit court, de production locale, de débouché local.
Ok, et donc j'imagine que dans les collèges, il y a vous, les salariés, et j'imagine qu'il y a des agriculteurs. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors oui, en fait, on a quatre collèges dans la SIC. Le collège des salariés, comme dans toutes les sociétés coopératives, hein, c'est le cœur. Néanmoins, là, on a ouvert, c'est un outil filière. Donc on a un collège filière amont avec les agriculteurs, les coopératives. Un collège filière aval, donc qui sont les utilisateurs de malt, donc essentiellement des brasseries ou des paysans brasseurs qui produisent leurs orges et leurs bières, qui ont juste besoin de faire malter les céréales entre deux. On a également la distillerie La Chananche qui fait du whisky avec des orges de la région, enfin des maltes de la région. Et prochainement, sans doute, une autre distillerie dans le Kera. Aujourd'hui, donc, on a une dizaine d'agriculteurs et deux organismes stockeurs dans le collège amont. Et on a une vingtaine de brasseries et plus six paysans brasseurs dans le collège aval. On ne va pas se lancer sur l'énumération, parce que ça va être un peu long. Mais voilà, avec toute taille de brasserie, de la petite brasserie unipersonnelle à des brasseries plus conséquentes qui vont faire jusqu'à 5000 hectolitres à l'année. Quoi. Voilà, donc un panel assez diversifié.
Alors je rajouterai, pour pouvoir vraiment démontrer notre capacité à construire un projet de territoire, hein, puisqu'on est vraiment, on est une entité qui va se développer au niveau de la région Sud-PACA, essentiellement. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'approvisionner en orge dans la région et de pouvoir approvisionner les utilisateurs de malt, que ce soit brasserie ou distillerie, dans la région PACA aussi. L'idée, c'est de pouvoir associer dans ce statut, ce qui est quand même très intéressant pour ce type d'entreprise, c'est de pouvoir associer des collectivités pour pouvoir vraiment avoir ce rayonnement territorial, de pouvoir vraiment démontrer qu'on a un projet de développement local.
Donc des mairies, des communautés de communes, des agglos.
La région,
ok.
En fait, oui, ce que je voulais dire, donc, je disais, il y avait quatre collèges, j'en ai cité trois. Le quatrième, c'est précisément les autres partenaires, les contributeurs de la filière. Donc là, on retrouve des acteurs comme Agribio 04 ou la micro-malterie de Marcel Delapierre dans la vallée du Jabron, qui est paysan malteur. Donc lui, il produit ses orges et il a conçu lui-même un outil avec la métallerie du Jabron. Ils ont conçu un outil pour faire leur maltage en interne avec des batchs, des petits batchs de 500 kilos. On a des houblonniers qui sont aussi partenaires. Donc ça, c'est vraiment les contributeurs. On a des sociétés qui viennent en appui. Et on a également des citoyens. Il y a une dizaine de citoyens aujourd'hui qui ont choisi de venir soutenir, une douzaine qui ont choisi de venir soutenir la filière, qu'ils soient consommateurs de bière ou pas. En tout cas, c'est un projet qui leur parlait. Donc ça, voilà, il y a aussi possibilité de venir en simple citoyen rejoindre la structure.
Un collège des consommateurs.
Les prochains, on espère avoir effectivement des collectivités.
OK. Et qu'est-ce que vous produisez concrètement ? Donc juste, je comprends, là, vous avez dit de la bière, mais il y a aussi du whisky, c'est ça ? Après, vous le distribuez, vous le vendez ?
Alors nous, on produit un produit intermédiaire.
Okay. Ouais.
C'est-à-dire on va transformer les céréales. La malterie, en fait, le principe, c'est de faire germer des céréales et de les sécher. Et par ce process-là, en fait, on va générer les enzymes qui vont permettre de transformer l'amidon, la céréale, en sucre fermentescible, pour produire l'alcool et le CO2 pendant le brassage et la fermentation de la bière. Et le whisky, en fait, on démarre par la fabrication d'un moût de bière qu'on va distiller. Donc voilà, il y a effectivement, le malt intervient à la fois dans la bière, dans le whisky. Ouais.
Et vous avez des résidus ou pas ?
Alors oui, on a des coproduits qu'on imagine valoriser aussi dans un souci de recyclage, de valorisation de tous ces éléments-là. On a en fait dans la fabrication, dans la process de transformation, petites racines qui vont germer du grain. On appelle ça des radicelles qui vont être séchées ensuite et récupérées potentiellement pour l'alimentation animale. C'est pour l'instant un débouché qu'on a identifié. Mais il y en a peut-être d'autres, puisqu'il y a tout plein de recherches à ce niveau-là.
Ouais, il n'y a pas des espèces de petits gâteaux apéro, là, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà.
Alors ça, c'est la drèche. Ouais.
La drèche de
c'est
bière.
C'est différent avec les drèches de brasserie. Donc, c'est une fois que le malt a été utilisé au brassage, donc qu'on a vraiment expurgé tout l'amidon, il reste les écorces de céréales. Et ça, effectivement, ça peut être réutilisé. Certains commencent à développer des recettes de biscuits apéritifs ou autres. Enfin, il y a différentes pistes. Essentiellement, ça va en alimentation animale quand même. Mmh. Voilà.
Mais c'est très bon, le petit gâteau apéro en drèche de bière. Franchement, c'est étonnant et c'est assez bon, quoi. Alors moi, j'ai une petite question, une curiosité. Vous avez parlé de l'eau. Effectivement, il y a beaucoup d'eau pour faire de la bière. Elle arrive d'où, cette eau, vous ? Où est-ce que vous la prenez ? Alors c'est là, vous qui la prenez ou c'est plutôt les brasseurs qui vont s'approvisionner en eau ?
En fait, disons, nous, on va avoir besoin d'eau parce que pour faire germer les céréales, ça va démarrer par une phase de trempe. Donc, effectivement, on va avoir une certaine consommation d'eau. Et après, les brasseries, je ne sais plus. Enfin, dans la bière, il y a 90%, au moins 90% d'eau. Hein. Et dans le process, effectivement, la thématique de l'eau est très importante. Certains mettent en place quand même des circuits de réutilisation entre différentes phases de brassage. Voilà,
mais concrètement, c'est-à-dire que vous prenez l'eau localement, quoi.
Ah oui, oui.
Voilà, vous n'avez pas à prendre de l'eau dans des endroits qui sont spécifiques.
Non.
C'est effectivement un enjeu qui va être de plus en plus prégnant dans tous les process industriels. Hein. C'est ça, on en est bien conscient. Et du coup, il faut essayer d'anticiper un petit peu comment est-ce qu'on pourrait aussi, dans le site où on va s'implanter, on a déjà identifié des potentiels partenariats avec des activités qui sont déjà en place, pour pouvoir imaginer de recycler, d'essayer d'aller vers des économies d'eau. Il y a des choses à réfléchir. Ouais.
Ok. Quel programme. Bravo. Alors, c'est quoi la première chanson qu'on va écouter ?
La première chanson, on peut aller sur une chanson de Alain Bachung, écrite par Dominica.
D'accord.
Qui s'appelle Immortel.
Et pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Je me remémore le moment où je l'ai vu en concert à la Fiesta des Suds à Marseille, 2008 ou 2009, quelques semaines avant sa mort.
Ok, d'accord.
Voilà, et donc cette chanson, elle me touche.
Eh bien, on commence par un petit hommage.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
De retour donc sur la fesse avec Thomas et Mathieu de la Malterie Provence-Alpes. Alors maintenant, on va parler de vos métiers. Donc je ne sais pas qui veut commencer, Thomas ou Mathieu. Qu'est-ce que vous, c'est quoi votre, enfin, vos métiers? Qu'est-ce que vous faites très concrètement, cette malterie?
Pour l'instant, pour être honnête, on travaille surtout sur le développement du projet. Donc c'est un métier en soi. Bon, en fait, ça, c'est passionnant parce que ça, voilà, nos métiers n'arrêtent pas d'évoluer en même temps qu'on fait avancer le projet, quoi. On apprend par phase des nouvelles choses et on n'est pas fini d'apprendre. Précédemment, en fait, moi, j'ai travaillé dans le développement local. Je travaillais dans une communauté de communes et vraiment, c'est ce qui m'a amené à aborder ce projet. C'est de voir que c'était vraiment un projet de développement local, de structuration d'une filière de territoire. Voilà, tout ce travail de rassembler un peu les gens autour d'une réflexion, autour d'un projet. Puis, bah, petit à petit, après, voilà, j'ai dû aller un petit peu dans le côté technique, découvrir un petit peu plus le monde agricole, qu'est-ce que c'est que le maltage, Donc tous ces éléments-là. Donc moi, je suis surtout rentré dans cet aspect-là. En fait, mon titre, c'est directeur d'exploitation. En gros, c'est travailler tout ce côté approvisionnement et suivi de la production, quoi. Voilà. Mathieu.
De mon côté, on a très rapidement, quand on s'est lancé dans le montage, le portage et l'animation et la direction de cette coopérative d'intérêt collectif, on s'est réparti les rôles. Moi, j'ai un profil de géographe, donc pas très éloigné du profil de Thomas, avec des expériences en entreprise, en collectivité, en bureau d'études publiques aussi. Et je me suis lancé dans tout ce qui était accompagnement. Nous, on a besoin d'un plan de financement qui rassemble énormément d'acteurs, que ce soit de l'économie sociale et solidaire, mais aussi du monde institutionnel, que ce soit au niveau de l'État ou de la région. Donc il fallait, pour pouvoir mener à bien ce projet, il fallait pouvoir s'appuyer sur des soutiens financiers conséquents, coordonnés. Donc ça c'est vraiment un job très très à part entière, puisqu'en fait il faut quand même réussir à articuler tout ça et qu'on puisse rapidement pouvoir déclencher la phase opérationnelle. Donc on a besoin d'une enveloppe assez conséquente pour pouvoir mettre en place cet outil de production.
Donc toi, tu fais des budgets, des demandes de financement
C'est ça. Je coordonne l'ensemble des partenaires qui nous ont suivis. Dès le début, on a eu besoin de subventions publiques pour pouvoir avoir une certaine légitimité aussi à monter ce projet. Après cette phase d'obtention de subventions, il a fallu aussi convaincre tout un tas de partenaires, que ce soit France Active, Banque des Territoires, l'URSCOP et la CGSCOP, qui sont le modèle coopératif. Là aussi, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On appelle ça le club des quatre, ou la bande des quatre, je ne sais plus. Mais c'est vraiment les quatre structures qui nous permettent de pouvoir monter un tel projet.
Et le budget à peu près de la malterie, il est à combien ? À peu près ?
À peu près, on est autour d'une enveloppe, ça dépend si on prend en compte le foncier, mais on est entre 4 et 5 millions d'euros.
Avec ou sans le foncier ?
Sans le foncier, on est plutôt à 4.
Ok, d'accord. Okay, okay.
Donc c'est un outil industriel qui coûte cher. Hein, nous, le fabricant, l'équipementier, donc c'est une marque allemande qui s'appelle Kaspar Schulz, qui est quand même très reconnue et très plébiscitée pour la qualité du malt qu'on va produire. On est sur des montants assez conséquents qui supposent un soutien
financier
de beaucoup d'acteurs. C'est là où l'enjeu, c'est de pouvoir coordonner tout ça.
Ok. Et est-ce que vous êtes capable de décrire une journée ou plutôt une semaine type ? Est-ce que c'est possible, ça, de le faire ?
Aujourd'hui ou aujourd'hui, au moment où on sera en production ?
Non, aujourd'hui.
Donc, aujourd'hui, la journée, il n'y a pas vraiment de journée type. Hein, on est sur tellement de dossiers différents pour faire avancer. Mais je dirais, moi, j'ai envie de centrer sur la coordination, la structuration de la filière. Donc, d'un côté, être en relation avec les coopératives, les organismes stockeurs. Quoi.
Donc, des coups de fil, des réunions.
Les agriculteurs et Agribio 04, notamment, qui nous accompagne beaucoup, ou la coopération agricole sud. Voilà, pour accompagner, c'est une nouvelle culture sur la région. Donc, avec ses exigences, hein, on a un cahier des charges très strict. Donc, il s'agit de bien mettre en place les bonnes conduites de culture localement.
Ça veut dire que toi, typiquement, tu te déplaces, tu vas rencontrer les gens dans...
Alors, sur leur moi, je suis plus coordonnateur parce que je ne suis pas du tout ingénieur agronome. Hein, donc là, vraiment, c'est assez pointu. Mais c'est d'être en relation et d'animer la réflexion, d'être un peu le pivot entre, d'un côté, le monde agricole qui va se lancer dans cette culture-là et puis les brasseurs qui vont avoir les retours d'utilisation et notamment qui débouchent sur ce cahier des charges à respecter. Donc c'est d'être un peu l'interface entre les deux. Donc c'est beaucoup de rencontres, d'échanges. On a des commissions au sein de la SIC, là, des commissions de travail qui nous permettent d'ajuster un peu.
Donc organiser des réunions, par exemple.
Voilà, donc, okay. Ouais, effectivement, il y a pas mal de réunions, etc. On est en train de découvrir aussi l'aspect commercial des choses, parce que ça y est, depuis l'an dernier, on a pu transformer une centaine de tonnes d'orge cultivée dans la région. avec peut-être au débat voilà, un peu des imperfections, etc. Là, cette année, on a près de 350 tonnes qui ont été collectées. Donc voilà, on multiplie par plus de 3 le volume, ouais. Et avec une qualité qui s'est vraiment affinée. Et donc voilà, on fait transformer ça chez Malting Pot, qui est une malterie du même modèle hein, que celle qu'on est en train de développer, qui est basée en Haute-Savoie. Donc voilà, on sous-traite le maltage, on récupère le malt ensuite qu'on va distribuer sur la région. Donc ça, voilà, c'est aussi la découverte du métier un peu commercial. Après, on part sur un terrain assez favorable parce que les brasseries sont vraiment motivées. Mais voilà, donc c'est un peu d'être l'interface entre tous ces acteurs. C'est ça qui est assez passionnant, quoi.
Ok, et toi, ouais. Mathieu ?
En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on jongle dans cette étape-là où en fait on a déjà une activité qui est en place et donc production, même si c'est de la sous-traitance, il faut Thomas coordonne l'ensemble des approvisionnements en orge et tout le travail qui est fait en amont par les agriculteurs via les coopératives et l'ensemble des organismes de stockeurs et l'aspect vente de malt. Donc on est déjà dans cette version de notre futur métier qui est quand même l'activité de produire du malt et de le vendre. Et à côté de ça, on a quand même, avant de poser la première brique de la malterie, on a cette partie finalisation du tour de table financier qui est aussi tout aussi importante.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un aspect que vous adorez dans vos métiers et un aspect que vous détestez ?
Pour ma part, je suis assez stimulé par l'aspect trouver des voies de passage entre différents intérêts que peuvent avoir les différents acteurs qu'on a au sein de la société coopérative. Donc c'est un aspect de gouvernance pas facile à appréhender, qu'on touche un tout petit peu du doigt pour l'instant, mais qui va quand même être très 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 central. C'est-à-dire qu'il faut trouver des compromis entre ces différents intérêts qui peuvent être divergents à certains moments. Et nous, on est au milieu.
D'accord.
Est-ce que tu détestes ?
T'as quelque chose que t'aimes vraiment pas faire, quoi ?
Quelque chose que j'aime pas faire, ce serait rédiger et ça Thomas le fait très très bien, donc voilà, on est très complémentaires, rédiger des jolis mails ou des paragraphes à n'en plus finir pour des dossiers, c'est
super. Et donc toi Thomas, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu détestes?
Ce que j'adore, c'est un petit peu ce que j'ai dit précédemment, hein, c'est d'être un peu à l'interface et animé du collectif. J'aime beaucoup aller rencontrer les partenaires sur leur lieu de travail, découvrir leur environnement, etc. Mais je suis très impatient aussi de la phase, quand on va vraiment rentrer en production et être le nez dans le grain, dans la germination. J'ai pu déjà découvrir un peu, j'ai été accueilli très sympathiquement par l'équipe de Malting Pot en stage en Haute-Savoie.
C'est pas mal ça.
Ouais, ça met en appétit quoi. Donc j'ai hâte de ça. Et puis effectivement, ce que je déteste, j'allais envoyer le truc, c'est tout ce que fait Mathieu sur le côté financier. Donc on s'est finalement pas mal trouvé, ouais. Belle complémentarité.
Et comment vous vous rencontrez tous les deux ? Qu'est-ce qui
Là, c'est peut-être le moment de parler aussi de Nicolas Garcin, qui est un des éléments très très moteur de ce projet. On est tous les deux parce qu'on est les salariés dans le collège en question, mais à la base, Thomas pourra peut-être raconter un peu plus en détail l'histoire de la rencontre entre Nicolas, qui est brasseur à Chorges. Et toi
Nicolas, donc, c'est le président de la SIC. C'est un petit peu, clairement, la locomotive du projet, parce qu'il il s'est engagé dans le monde brassicole en 2015 en créant sa brasserie à Chorges et qu'il a développé d'année en année. Au début, je crois que chaque année, il doublait sa capacité de production et il investissait. Enfin, voilà, il est vraiment très entreprenant et il a un réseau comme ça. Et en fait, moi, je l'ai rencontré au départ un petit peu. Je me lançais, moi, je suis parti sur cette idée de explorer la possibilité de créer une malterie, parce que j'avais perçu que c'était vraiment un outil structurant. Et au moment où je me suis lancé, j'ai lu un article dans La Provence. C'était au moment où le FEADER avait, donc c'est un fonds européen de développement de l'agriculture. dans les territoires ruraux. Donc, ils avaient apporté leur soutien à la bière de Provence et à tout le collectif que j'ai cité au début de l'émission pour lancer toute la phase d'expérimentation de recherche pour structurer les filières locales. Et donc, il y avait un article à cette occasion-là et vous avez interviewé Nicolas Garcin qui disait que voilà, qui était brasseur et qu'il allait faire sa malterie, etc. Donc, j'ai pris un peu peur. Je me suis dit, bon, je l'ai appelé et on a passé une heure au téléphone. Super, un échange passionnant. Et il m'a accueilli après à sa malterie et à la fin de la...
À sa brasserie.
À la fin de la matinée, il me dit, mais écoute, on a les subventions à l'association La Bière de Provence, mais on n'a personne pour travailler le sujet, quoi. Donc, si ça te dit... voilà, et ça, la collaboration a commencé comme ça, quoi. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est un projet qui a été tout le temps rythmé par des rencontres et des gens qui sont venus adhérer au projet. Et au moment où moi j'étais plongé dans la réalisation des dossiers de demande de subvention, notamment à l'agence bio, et où j'étais très bien accompagné à l'occasion par l'URSCOP, donc on a cité tout à l'heure, et l'agence de développement économique de la région Rising Sud, mais j'étais un petit poil submergé sur la question financière en particulier. Et à ce moment-là, Mathieu est arrivé. Je le connaissais, on est un peu des voisins. Moi, j'habite à Fort-Calquier, Mathieu à Pierre-Rue, juste à côté. On se connaissait par le milieu associatif. Mais c'est un moment où Mathieu était en reclassement professionnel. Et
les planètes sont alignées.
Carrément, voilà. Bravo. Grâce à ça, le projet continue efficacement.
Et si jamais on a envie d'aller soutenir votre malterie en consommant de la bière, avec modération évidemment.
Bien entendu.
Où est-ce qu'on peut se fournir ? On va où ?
C'est depuis plusieurs années, on voit fleurir et fleurir les brasseries artisanales locales. Donc, vous pouvez trouver des brasseries, des bières de brasseries artisanales dans à peu près presque chaque commune. Enfin, le marché se régule puisque c'est quand même compliqué de pouvoir résister en étant tout petit. Mais on peut trouver des bières et très 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 progressivement, on va voir apparaître aussi pour tous ces enjeux de traçabilité, le malt qui viendra de la malterie Provence-Alpes, l'origine du malt dans les bières va apparaître, l'origine du houblon aussi. Ça, c'est des choses qui on peut facilement trouver des bières.
Mais genre, par exemple, sur Digne, là, si moi je veux aller m'acheter une petite bière à ramener.
Dans les environs, sur la région, il y a à peu près 140 brasseries en activité.
Ok, donc ça fait du choix.
Voilà. Ouais. Sur le département ici, on va être à une quinzaine sur le département 04. Dans les plus proches, je vais me faire engueuler parce que j'ai oublié.
Ah oui, c'est le problème, si on en cite.
La bière de la Durance qui est à Sisteron. Il y a Renard d'Orge qui s'est installé tout récemment à Maliget. Il y a la 04 à Volonne qui, j'oublie, aide-moi. Il y a Brass-Bastel à Volx.
Non mais évidemment, on va pas vous mettre dans l'embarras de citer tout le monde parce que ce sera difficile.
Néanmoins, voilà ce que je veux dire. Le meilleur moyen de le découvrir là, prochainement, il y a une association locale qui s'appelle Georges Houblon qui fédère les acteurs brassicoles du 04 et qui vont organiser la Saint-Patrick le 21 mars. Super. Au marché de Saint-Mème. Donc une belle occasion pour rencontrer Serpentine. J'ai oublié la Serpentine. C'est vrai.
Sept brasseurs. Ouais.
Voilà, donc...
Après, vous pouvez aller... On a la chance, dans notre belle région, d'avoir des magasins de producteurs. Et en général, ils ont les brasseries locales, quoi.
C'est super.
Et un petit bonjour à BV10 aussi, qui est pas loin d'ici, au Chaffaut. Voilà, donc... Désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais voilà. Il y a du monde et de l'énergie et de l'ébullition.
Ça brasse.
Ça brasse.
Alors, la deuxième chanson, c'est laquelle, la deuxième chanson ?
Alors là, c'est moi qui ai choisi, c'est pas tout récent, c'est une chanson de Tom Waits. Mm-hmm. Tom Waits qui lui-même a une voix particulièrement maltée, je dirais. Et c'est un morceau qui s'appelle Jockey Full of Bourbon.
Et pourquoi ?
Juste, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui pourrait faire du lien entre la musique et le malt ? Et j'ai pensé à Tom Waits.
Parfait. Alors on y va pour la musique maltée.
Just
De retour sur la fesse, dernière partie de la fesse, avec Thomas et Mathieu sur Fréquence Mistral 99.3. Les amis, on va parler de vous maintenant. Bon, vous nous avez un peu teasé ce que vous avez fait, mais si vous pourriez vous présenter en termes de parcours, qu'est-ce que vous avez envie de valoriser là maintenant? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait?
Ah, moi, j'ai un parcours un petit peu sinueux, mais avec une logique, on va dire, toujours. Quand j'ai démarré mes études supérieures, j'étais motivé sur les questions d'urbanisme et d'habitat. C'était fabriquer un peu le cadre de vie et faire vivre le cadre de vie. C'était ça. Donc, j'ai travaillé dans un premier temps dans le monde HLM, dans les bureaux d'études d'urbanisme. D'abord en région parisienne, puis après je suis allé m'installer à Marseille parce que j'avais une forte attirance pour cette région, en particulier enfin, pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. Mais en tant que parisien, je craignais le grand plongeon d'un coup, donc je fais un palier de décompression à Marseille pendant 7 ans. En travaillant là-dessus, j'avais vraiment envie, d'une part, vraiment de m'implanter dans la région ici et de travailler sur de l'opérationnel et sur du développement local, quoi. Pareil, faire vivre le local. Et c'est là que j'ai fait une formation au CFPPA de Carmejane sur le développement l'animation du développement dans les territoires ruraux. Voilà, c'était l'intitulé. Et ce qui m'a permis de entrer en stage à la communauté de communes du Pays de Fort-Calquier, où j'ai travaillé pendant 15 ans finalement à l'issue de ce stage, sur tout plein de thématiques de développement local, au départ sur un projet de développement de la filière livre-écriture, mais on était sur cette question de filière aussi, c'était de collectif et tout. Donc voilà, c'est un petit peu le collectif, ce qui m'a guidé tout au long, quoi.
D'accord. Et toi, Mathieu ?
De mon côté, je suis issu d'une famille paysanne, je dirais. Donc le monde agricole, j'ai baigné dedans dans toute mon enfance et mon adolescence. Donc c'est vrai que le rapport à la terre, ça m'a quand même bien guidé, pas toujours dans les choix professionnels, mais j'ai toujours eu un potager, par exemple. c'est certainement un signe. Après, voilà, j'ai eu des expériences professionnelles dans la région nantaise, et ensuite j'ai continué mes études dans la partie aménagement du territoire, géographie, ce qui m'a amené à travailler au BRGM par exemple à Marseille. J'ai eu deux années d'expérience là-bas, et ensuite j'ai trouvé du travail dans une énorme multinationale qui fait des contenus cartographiques pour les GPS de véhicules. ce qui, voilà, c'est une super expérience pour découvrir un écosystème. Et c'était un débouché en tant que géographe, hein, ce qui est pas toujours évident. À part être prof de géographie, voilà, il y avait pas 15 000 possibilités. Donc des fois, on saute sur ce qui se présente. Et voilà, après reconversion professionnelle, effectivement, c'est un gros virage de repartir sur ce projet de malterie. Mais voilà, c'est mon parcours.
Ok. Eh ben super, c'est les chemins convergent et la malterie a fait le, enfin le Malte a fait le reste pour vous brasser ensemble, on va dire gentiment, hein, et en tout bien tout honneur, j'imagine. Et pour aller plus loin, pour vous connaître psychologiquement parlant, grâce à vraiment une méthode bien établie, on va faire votre portrait chinois parce que c'est rigolo, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, moi, ça me fait marrer, c'est propre à moi, mais j'aime bien me faire rire, on va dire. Principe très très simple, je vous pose une question. Si vous étiez une fleur, quelle fleur seriez-vous? Voilà, et vous répondez. Donc, ça permet de vous présenter ou de parler de ce que vous aimez. Donc, on commence le petit portrait. Si vous étiez un dessin animé du Club Dorothée, quel dessin animé seriez-vous?
Moi, ce serait Olivier Tom.
Ok.
Je pense. Ouais. Ouais. En fait, je crois que ça m'a permis de comprendre que la Terre était ronde.
Parce qu'il faut se rappeler que pendant les dessins animés, on voit le terrain avancer au fur et à mesure. On a l'impression que le terrain est courbé, effectivement. Oui, c'est ça.
Alors moi, ça remonte à il y a très très longtemps, hein, Club Dorothée. Je ne suis pas sûr, j'ai l'inspecteur Gadget qui me vient en tête, mais je ne sais pas si c'était vraiment programmé dans ce cadre-là.
Si. Et pourquoi tu serais inspecteur?
Oh bah ça, j'adorais ce personnage un peu hurluberlu, décalé, censé... Enfin voilà, c'est un peu comme l'inspecteur Palmer de Pétillon. Enfin tous ces inspecteurs qui sont à côté de leur pompe et un peu géniaux à leur façon.
Ok.
J'aime bien aussi Peter Falk, là, c'est... comment il s'appelle? Colombo, voilà, l'inspecteur Colombo, tu vois.
Ouais,
c'est...
Okay. Tu les aimes bien, quoi.
Voilà.
Ouais, efficace aussi. Je pense que Colombo est plus efficace qu'un Gadget, mais ce n'est pas le débat.
C'est le maître en la matière, hein, c'est clair.
Si vous étiez une boisson, alors vous n'êtes pas obligé de répondre la bière, mais si vous... peut-être.
Le whisky.
Le whisky. Et toi, Mathieu?
Moi, ce serait une bonne IPA locale, ouais.
Ok. Parfait. Moi, j'avoue, moi aussi, j'adore l'Indian Pale Ale. C'est vraiment trop, trop bon, quoi. OK. Si vous étiez, les gars, un objet dans un salon, vous serez quoi?
Ben, cette saison, moi, l'objet de mon salon qui me fait le plus de bien, c'est le poêle.
OK.
Je pense que...
Poêle à bois, hein, poêle à granules?
Poêle à bois, ouais. Poêle à bois. Et apporter de la chaleur. Okay. C'est beau, ça.
Foyer ouvert, foyer fermé?
Fermé.
OK, bien. Il faut qu'il fasse chaud, quoi. Un peu d'inertie. Mathieu?
Moi, ce serait la carte, une vieille carte de l'Islande qu'on a mis chez nous parce qu'on est allé là-bas et que c'est fabuleux. Et c'est, genre, ça me fait repenser souvent.
J'avoue, ça me fait rêver aussi. Je n'y ai pas encore été, mais c'est sur ma to-do list de ma vie. Voilà. Si vous étiez un instrument de musique?
Moi, c'est la guitare qui me vient tout de suite, déjà parce que j'en ai joué beaucoup. Dans une première vie, j'étais rocker. Et puis parce que la guitare, il y a plusieurs cordes à faire sonner ensemble. Toujours, on revient au collectif, hein, voilà, l'accord.
Ok. Et toi, Mathieu?
Moi, ce serait un truc très abordable parce que je pense que je suis assez nul dans le domaine. Donc, un triangle ou un truc comme ça.
Attention.
C'est pas si
simple que ça. Hein. Hein, c'est vrai en plus, hein. Allez écouter un peu des groupes de foro par exemple.
Bon, pardon pour ceux qui font du triangle.
Mais très joli, très joli. Alors, il y a tout le temps deux questions récurrentes sur chaque émission, je les pose toujours les mêmes. Si vous étiez ministre, quel ministère? Et vous avez le droit d'inventer votre ministère.
Je serais ministre de l'environnement.
Ok, d'accord.
Un bon vieux ministère de l'environnement bien central, quoi.
Ok, d'accord.
Moi, je ne suis pas sûr de faire un bon ministre. Heureusement, ce n'est pas mon ambition, puisque je crois que de toute façon, j'aurais peu de chances d'y parvenir. Mais la thématique qui me viendrait là, vu le contexte, bon, Mathieu a parlé d'environnement, c'est important. Il y a le côté humain aussi, donc je dirais ministre de l'hospitalité et de l'intelligence entre les peuples.
Ok, voilà. Pas mal, tout un programme. Et la dernière, si vous étiez une forme géométrique.
Ah bah ouais, le triangle. Pareil.
Okay.
Mais le triangle, mais pour la montagne, pour la forme
okay.
que représente le triangle. Voilà, dès que je peux m'évader en haut d'un petit sommet, je m'en prive pas.
Ok, Thomas.
Bah moi, j'irais le cercle pour rassembler.
Ok, tu vas jusqu'au bout de.
Voilà, toujours la même logique.
Ok, d'accord. Super. Même aussi, tu te roda. Eh bah, ben super. Merci beaucoup. Hein. Maintenant, ça y est, on sait tout sur vous, quoi. On pourra aller à la montagne avec Mathieu ou aller profiter de la chaleur du poêle chez Thomas si on a envie, quoi, avec un petit verre de Sky, comme
voilà.
on dit. On va arriver un peu sur la fin de l'émission. On va passer à la période de l'agenda. Vous avez parlé un peu de 2-3 trucs tout à l'heure. Là, j'entendais la fête des brasseurs.
Alors, il y a cette fête de la Saint-Patrick qui va tomber là. Enfin, c'est le 17 mars, mais bon, l'association Georges Houblon célèbre ça le vendredi 21 mars au marché de Saint-Même. Donc ça, c'est la date que j'ai en tête pour le moment. Après, je pense que... les auditeurs sont un peu habitués à voir les différentes fêtes de la bière hein, qui se déroulent dans pas mal de communes. Je sais qu'il y a Fort-Calquier à la fin juin. Je ne vais pas me lancer dans
toutes les fêtes
dans
de la
toutes
bière.
Les dates, je vais me planter. Mais voilà, soyez attentifs, c'est des moments bien sympas et on découvre vraiment des très bons produits avec modération.
Exactement, avec modération. Et puis, si vous buvez trop, dormez dans vos voitures. Voilà. Sinon, vous identifiez, comme on appelle ça, un SAM qui ne buvra pas et qui pourra vous ramener en toute sécurité.
Et sachant que les brasseries font également des softs hein, pour beaucoup d'entre elles, que ce soit des colas, des limonades, etc. Donc,
et ça, c'est
SAM a de quoi goûter des bonnes choses aussi. Quoi.
Super. Eh bien oui, il faut aller découvrir tout ça. Autre chose peut-être.
On peut citer peut-être, mais l'échéance est un peu lointaine, mais vu qu'on est sur la fesse, je pense que le congrès national des SCOP à Toulouse en mars 2026.
Ok, d'accord.
C'est quelque chose qui peut être intéressant à avoir en tête.
Et ça va rassembler donc des coopératives et des SIC.
C'est tout le modèle coopératif, que ce soit toutes les structures qui sont en SCOP, CAE et SIC, qui se rassemblent à Toulouse pour un congrès national.
D'accord, ok.
Et puis autre chose, pour revenir sur le local et sur la filière brassicole, je voulais signaler aussi que le CFPPA de Carmejane est en train de mettre en place une formation au titre brasseur. Donc pour tous ceux qui s'intéresseraient à la filière brassicole, voilà, c'est une formation très pratique qui est mise en œuvre, en partenariat, qui va faire intervenir vraiment pas mal de brasseries locales. Avec une partie en cours, une partie en stage dans les brasseries, etc. Et voilà, ça va démarrer à l'automne prochain, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du CFPPA de Carmejane, Fort-Calquier. Voilà, okay. Le site de Fort-Calquier.
D'accord, alors plus proche dans l'agenda, avant le 17 mars, il y a le 8 mars, hein, samedi prochain. Donc, journée internationale du droit des femmes et non pas la fête de la femme. Donc, ce n'est pas l'occasion d'offrir des bouquets de fleurs à vos sœurs, à vos amis, eux, et à vos collègues, s'il vous plaît, et à dire bonne fête. Franchement, c'est malvenu. Par contre, il y a plein d'événements qui vont avoir lieu, le 7, le 8, des projections, des débats, des présentations de projets. Donc, moi, je vous invite à aller sur le site du CIDFF. Ici, là, autour de Digne, il y a pas mal de choses qui sont proposées et on y va parce qu'on est concernés tous par ce sujet de l'égalité femmes-hommes, donc les hommes, les femmes, les personnes assimilées hommes ou les personnes assimilées femmes. Donc allez-y, ce sera quand même c'est un moment important et on rappelle que voilà, c'est une journée internationale et que ça ne parle pas seulement de ce qui se vit sur nos territoires, mais c'est l'occasion d'aller se conscientiser, se sensibiliser sur... Bah, tout l'enjeu de ce que subissent les femmes au niveau international, parce qu'il y a des pays où c'est... ça ne veut pas dire que c'est simple en France, hein, mais il y a des pays où c'est encore un peu plus compliqué en termes d'accès aux droits, et des fois, sans que ce soit très loin de chez nous, hein, je ne sais pas moi, ou, par exemple, les États-Unis, voilà, par exemple. Voilà, écoutez, on arrive vraiment sur la fin. Vous avez un dernier truc à nous dire, peut-être ? Quelque chose qui vous tient à cœur ?
Un grand merci déjà, parce que c'est important de pouvoir porter l'information sur ce type d'initiative. Et voilà, c'est bravo la fesse.
Merci.
Et on peut aussi dire que si quelquefois certains brasseurs de la région n'étaient pas au courant, on a du malt. Bon, on est en modèle coopératif, mais on reste une entreprise. Et il faut qu'on trouve preneur pour tous ces bolos de malt. Pilsen et Pale Ale, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Et comment on vous retrouve en fait, si on veut vous contacter, on fait comment?
Ah, alors on a un site internet, www.malteriesprovencealpes en un seul mot.coop, comme coopérative. Ouais, le mieux c'est ça, c'est simplement le site internet et une page LinkedIn aussi.
Ouais, on est un petit peu sur les réseaux, comme tout le monde je dirais, mais ouais. Je ne sais pas si c'est bien.
Bah,
après, mail et téléphone, mais bon, oui, on ne va pas les dire pas à l'antenne.
Bon, en tout cas, on laissera vos contacts sur le site de la radio pour aller choper le podcast de l'émission. Donc, comme ça, si nos auditeurs et auditrices veulent se renseigner sur vous, eh ben, ils auront tout simplement à aller cliquer sur le lien et comme ça, ce sera plus simple. Bah voilà, merci. Moi aussi, je vous remercie fortement d'être venu participer à cette émission, à faire vivre la fesse. On est toujours sur cet objectif d'essayer de donner à voir de ce que l'ESS sur notre territoire. Hein, je le rappelle de temps en temps, mais je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit. L'ESS dans le 04, c'est 20% de l'emploi. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire que voilà, le modèle coopératif, les associations, tout ce qui va concerner le collectif, l'humain, l'environnement, la culture, l'accès au droit, voilà, ça fait vivre, c'est pas juste des services, c'est que ça fait vivre le territoire d'un point de vue économique. Et c'est chouette en fait de dire qu'on est sur un territoire qui est dynamique à ce niveau-là, dans un contexte où être une association, c'est la galère. On va dire que les dernières lois de finances, elles sont pas très... favorable au bon développement économique de ces structures-là. Donc voilà, venir nous écouter, aller sur les événements de ces structures, en parler, consommer local, c'est des actes politiques qui peuvent sembler faibles, mais je vous l'assure, c'est pas rien. Et donc on a besoin de tous pour réussir à avancer sur ce modèle-là coopératif. We are the world, we are the children. Voilà. On est tous ensemble, quoi, en tout cas. Donc merci en tout cas pour ce que vous faites, votre engagement, et de faire en sorte que la bière soit sociale. Ça, c'est pas mal, ça.
C'est beau.
Hein, bière sans frontières, on est tous ensemble. Prochain rendez-vous, j'en sais rien. En fait, j'ai pas encore calé la prochaine émission, ni les prochains invités. Donc ce sera au courant du mois de mars. En tout cas, encore une fois, merci à la radio. Merci à Tiffany de m'avoir prêté son micro et de ne pas avoir pu s'exprimer, mais elle nous a géré la technique d'une manière chirurgicale et merveilleuse, donc merci à toi. Et donc, on finit sur une dernière musique un peu particulière, vous nous la présentez ?
Alors ça, c'est une musique qu'on s'est mis d'accord tous les deux pour, nous on promeut les richesses locales et donc là, des jeunes talents locaux. C'est un groupe qui s'appelle Graal, c'est un duo électro-acoustique avec Solal Fayet et Nils Courtial qui se sont rencontrés à l'IFBM, là, l'école de jazz de Salon de Provence. Et qui sont, Solal est quelqu'un de fort calqué, voilà, on est dans du vrai local. Et un morceau donc, qui s'appelle Welcome in Transanie. Voilà, donc avec de l'électro, de la clarinette, et c'est assez planant. Voilà, un groupe qui ne demande qu'à se produire partout dans la région. Donc si ça vous fait envie, n'hésitez pas
super.
À prendre contact à travers la radio, j'imagine.
Exactement, voilà. Ok. On regardera ça avec attention. Merci à toutes et à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.
Merci.